sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Camille André et Joséphine Dumoulin. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Anna Sigalevitch et Emmanuel Giuliani pour parler ensemble de Frankenstein de Marc Gray, présenté à la Monnaie de Bruxelles dans une mise en scène d'Alex Olley. Volio Cantar est un disque démoqué Barat chez Warner. Un coup de cœur d'Anna Sigalevitch pour l'intégrale des enregistrements d'Anne Kefelec, sorti chez Eraton. Et un petit salon de Lucille Como. Berlioz, la fin du désamour pour interrogation. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Océanie, à découvrir jusqu'au 7 juillet au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec une création mondiale d'opéra, Frankenstein, de Marc Gray, présentée à la Monnaie de Bruxelles jusqu'au 20 mars. On pourra voir cet opéra en streaming sur le site de la Monnaie à partir de vendredi, le 15 mars, et pour 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 septembre prochain. On suit au départ, ai-je lu, puisque je n'ai pas fait le voyage de Bruxelles, pas plus que Lucille Como, donc ce sera un duel de disputeuses, Anna Sigalevitch, Emmanuel Giuliani qui vont nous en parler. Moi j'ai lu qu'au départ on suivait un groupe de scientifiques en voyage au pôle Nord qui découvre sur la banquise un être congelé. Bon, il le décongèle, donc ça marche, il revient à la vie. Mais non seulement cela, mais ils arrivent à lire dans son esprit, et par flashback, on va découvrir l'histoire de Victor Frankenstein, le héros de Mary Shelley, et de sa créature. C'est donc Alex Olley qui signe la mise en scène et Bassem Akiki, la direction de l'orchestre. On va écouter un extrait avec Victor Frankenstein et sa créature.
Of a forced solitude which I abhor, my virtues will arise in unity with my consort. I shall care the cares of a sensitive being. Of existence from which you have excluded me.
Although I consent,
it's reasonable and sensible.
If I consent to your demand, I'll solemn oath you quit every place of mine. If I did a female who would accompany you in exile.
I swear by the sun and fire of love that burns my heart. I swear by the sun and fire of love that burns my heart, I can't prove to you ever before me again. As true as my word I set you free, I shall watch you with anxiety. When you are ready, I shall appear.
Voilà pour cet extrait du Frankenstein actuellement à l'affiche de la Monnaie à Bruxelles. Alors j'étais en train de regarder le dossier de presse, tout d'un coup je vois idée originale et mise en scène Alex Olé, donc c'est sans doute le metteur en scène qui a soufflé cette idée au compositeur, mais comme on vient d'abord d'entendre de la musique, ce serait quand même peut-être bien qu'on commence là-dessus, si vous le voulez bien, Emmanuel Giuliani.
Bien sûr, vos désirs sont des ordres.
Non, ce sont des suggestions, non, bien sûr.
Oui, bah, je trouve que l'extrait qu'on vient d'entendre résume assez bien l'impression globale musicale que l'on peut avoir, et sur la partition elle-même et sur l'interprétation, à savoir une musique qui est pas du tout déplaisante, bien faite, bien orchestrée. Là, on a entendu, disons, une version, les passages où la dynamique est mezzo-piano. On va du pianissimo, assez réussi d'ailleurs, aussi bien pour les chœurs que notamment pour le personnage de la créature, qu'on entendait là, la voix de ténor, jusqu'à des grands fortés, voire fortissimo. Et la gamme est bien couverte, il y a une belle orchestration, il y a un peu d'usage de musique électronique, notamment au début, avec une mer de sons blancs, je sais pas comment, enfin, il me semble que c'est ça, de musique blanche pour donner à la fois cette impression de la banquise dont vous parliez, puis pour montrer qu'on est aussi dans un univers fantastique, à la fois futuriste et avec des retours en arrière. La partie vocale est plutôt bien écrite, mais tout ça est un peu anodin. Voilà, on se dit qu'on a déjà entendu, mais après tout, on peut avoir déjà entendu et être ravi de réentendre. On l'a vu dans l'extrait, un peu de ces formules répétitives du minimalisme américain, des lignes vocales qui font un peu britanniennes par moment, et puis à d'autres qui rappellent un peu l'écriture d'Adams ou même d'un Thomas Hades. Donc voilà, on est dans des univers assez familiers, de même qu'on le sera au point de vue de l'histoire. Et bon, ce que l'on peut se dire, c'est qu'une fois qu'on a entendu cet opéra, est-ce qu'on meurt d'envie de le réentendre ? Et la réponse est plutôt non. Mais on a passé un moment qui ne vous a pas déstabilisé, peut-être pas assez, ouais, justement. C'est aussi ce qu'on cherche quand on
n'a affaire
à une création, ni transcendée.
Anna Segalevitch, votre écoute, vous, de cette opéra de Marc Grey.
Oui, je partage plutôt ce que vient de dire Emmanuel. On a assisté à la même représentation qui était dimanche après-midi. C'est vrai que c'est bien fait, c'est soigné. On sent qu'il y a beaucoup de travail d'écriture, que c'est vraiment pensé. L'instrumentarium est important. Je crois qu'il y a près de 60 musiciens dans la fosse. Oui, 66. Il y a pas mal de choristes aussi. Il y a plein de choses en effet musicalement. Il y a, comme le disait Emmanuel, un petit peu de musique minimaliste. Il y a aussi beaucoup de la musique de film, je trouve, hein, avec un côté un petit peu en effet film à suspense, plus que d'ailleurs film de science-fiction, plutôt film à suspense un peu Hitchcockien, mais sans les arêtes et sans la diversité de climat qu'il peut y avoir et surtout la peur qu'il peut y avoir dans cette musique-là. Là, on est dans une forme de confort d'écoute où c'est très fluide. En effet, il y a des accents aussi assez wagnériens. Il y a des chromatismes qui sont presque à la Tristan. On reconnaît.
Oui, il y a un accord un peu à la Tristan.
Tout
à fait.
C'est le même de que Tristan.
Mais on sait combien les musiques de films ont pris aussi
bien
chez
sûr.
Wagner. Donc tout ça est logique.
Voilà. Donc il y a effectivement un petit peu de tout ça. Je trouve qu'il n'y a pas réellement de cohésion en fait entre l'écriture pour l'orchestre et l'écriture vocale. C'est-à-dire que si la musique d'orchestre est en effet bien faite et très soignée et qu'elle accompagne, hein, on a vraiment le sentiment qu'elle accompagne et qu'elle ne crée pas elle les dynamiques dramatiques, mais qu'elle suit l'action qui est en scène. Je trouve qu'en revanche, l'écriture vocale, qui n'est pas inintéressante en soi, par exemple l'idée d'avoir donné à la créature une tessiture de ténor, je trouve que c'est bien parce que ça en fait un personnage. Oui, c'est original.
On attend une basse. Et puis,
absolument. Voilà. A priori, c'est ça. Ouais. Et non. Et ça va très bien avec le personnage qui est créé, qui est un personnage. Voilà, c'est vraiment le côté humaniste hein, de la créature qui est mise en avant, fragile, errant, qui cherche l'amour, et c'est parce qu'il ne trouve pas l'amour qui va se retourner et devenir avec un esprit vengeresse, etc. Donc ça, c'est plutôt en effet bien fait, mais l'écriture vocale, je la trouve très très difficile. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les chanteurs sont un peu seuls dans une sorte de nappe comme ça, sonore, et que leur ligne, il n'y a pas d'accroche, ils ne savent pas comment partir. Je les sens un peu flottants, ce qui crée quand même beaucoup de problèmes de justesse. Il y a vraiment des problèmes d'intonation chez tous les rôles. Donc ça veut dire que, à mon sens, je ne crois pas que ce soit un problème de chanteur, je pense que c'est la complexité en fait, de l'écriture vocale. Je ne dis pas que ce n'est pas bien.
Par rapport au chef, peut-être aussi, parce qu'on n'a pas parlé de Bassem Hakiki.
C'est difficile à dire pour une création, bien sûr. J'aurais du mal à accuser telle ou telle personne, mais en tout cas, le résultat est qu'il y a en effet peu de cohésion, peu de synergie entre la fosse et le plateau, ce qui crée des déséquilibres et des manques, des fragilités.
Vous êtes d'accord là-dessus, Emmanuel Gelani ?
Oui, à cette nuance près qu'il y a énormément de parties chorales qui malheureusement n'étaient pas très bien servies par les choristes dimanche en tout cas, et qui servent un peu d'intermédiaire, de ligne intermédiaire entre l'orchestre,
des tampons un peu,
et les voix solistes, très souvent notamment la créature incarnée par le ténor de Topi Lehtipuu, a la trame orchestrale, une espèce de résille chorale et sa ligne vocale. Alors, c'est vrai, comme vous le dites, Anna, très justement, c'est compliqué, on n'a pas de point de comparaison de savoir quel est le degré de responsabilité du chef. Quand on le regardait, il donne très précisément les départs et après, plouf, il remet le nez dans sa partition et il s'occupe de l'orchestre. Mmh. Il faut dire qu'il a fort à faire.
Ouais.
Donc c'est vrai que les chanteurs n'étant pas tous très solides ou plus très solides vocalement, ce qui est souvent un problème de distribution dans l'opéra contemporain, parce que faire travailler ces rôles à des chanteurs qui sont très demandés par ailleurs, c'est toujours un peu
oui, c'est quand même plus de 2 heures de musique, on l'a pas dit encore.
2h40 en tout, donc plus de 2 heures de musique, fait que cette fragilité est peut-être la somme de micros, voilà, fragilité, qui mise ensemble donne ce côté un peu flottant.
Se voir beaucoup. Ouais, ouais. Alors, se voir, justement, tiens, donc sur une idée originale d'Alex Olley, ex La Fura del Bauhaus, cet opéra Frankenstein, a priori beaucoup de... On connaît cette histoire-là, de cette créature, fabriquée en assemblant des morts. Là, c'est un mort qu'on ressuscite, mais c'est quand même... Il était déjà mort avant d'être une deuxième fois mort. Enfin, c'est un peu une drôle d'histoire. Mais qu'est-ce qui reste de cette histoire sur le plateau? Qu'est-ce qu'on en voit et comment est-ce que c'est montré, Anna Segalevitch?
Alors, l'adaptation, je le trouve très intelligent et astucieux. Même si, il y a d'autres faiblesses. Mais l'idée, je trouvais bonne, parce que...
Julia Canossa et Serra qui signent le livret.
Voilà, exactement. C'est elle qui signe le livret. Alors, qu'est-ce qu'on voit au départ? Donc, il y a quelque chose d'écrit en cyrillique au départ. Donc, moi, j'ai...
Mais vous avez lu?
Non, parce que je lis pas le cyrillique.
Ah bon?
Demandez à ma sœur. Mais bon, peu importe. Il y a écrit en fait Bouzloudja, et en fait qui était le siège du Parti communiste en Bulgarie. Donc c'est une sorte d'usine, de centrale en déshérence comme ça. Voilà. Donc c'est
mais
ça que
pourquoi
ça signifie. Donc on est là. Je ne sais pas. En tout cas, on est là. C'est un mélange de genres. Donc il y a cette esthétique un peu grise d'amphithéâtre avec une ambiance très grise, la neige au dehors, et puis une sorte de cratère, de grand trou au centre qui en fait va être rempli par un cylindre, une sorte de cabine qui va être tantôt au sous-sol, tantôt au rez-de-chaussée,
au
niveau du plateau, et tantôt plus haut dans les cintres. Alors on nous explique, vous avez absolument décrit justement ce que vous avez lu, mais en fait il faut quand même préciser qu'on est dans la nouvelle ère glaciaire.
Oula.
En l'an 354 et qu'on est en fait en 2816. Et donc l'idée de l'adaptation, c'est que il faut que je fasse court. Ouais, là, ça va être très très long. C'est vrai que je me lance dans quelque chose de très
très long.
Qu'est-ce
qu'on voit là? Alors, on voit ceci là.
L'idée, c'est que Walton, donc le scientifique, fait des recherches et il sort cette créature de la banquise. Et donc là, la créature est passée dans une sorte de scanner. Et là où l'adaptation est maligne, c'est que voilà, dans le roman de Marie Shelley, on sait que c'est très compliqué. C'est un roman épistolaire, il y a plein de mises en abîme, de récits dans le récit, enfin voilà. Là, c'est aussi complexe, hein. Mais il y a quelque chose qui est clair, c'est que en fait, le Walton ne trouve pas, contrairement au roman Dr Frankenstein qui lui raconte l'histoire, mais il trouve la créature. Mmh. Et donc du coup, ça se fait clairement en deux parties. On a deux temporalités. On a la temporalité de la créature, donc au 19e siècle, à l'époque de Marie Shelley, et la temporalité du futur. On n'a pas un mélange comme ça de choses. Donc ça rend les choses assez fluides et lisibles. Je ne sais pas si je l'ai été, mais...
Pas vraiment.
Mais je me souviens parce que vous prenez jamais mal les petits signes que je vous fais, Anna, pour aller à l'essentiel. Mais c'est vrai que c'est compliqué sur une histoire pareille et d'autant plus sur une création de mise en scène. Emmanuel Giuliani, est-ce que c'est aussi fluide qu'Anna Segalevitch l'a décrit?
Alors, c'est fluide et il y a deux grandes qualités, c'est qu'en effet, on n'est pas perdu, on comprend très bien. Bon, c'est vrai qu'il y a, comme toujours dans le programme, ils sont toujours très très bien d'ailleurs, les programmes
de la monnaie
est très très joli en plus. Donc on lit un peu auparavant, mais même sans ça, on comprend très bien qui est qui, à quelle époque on est, si on est dans la remémoration de la créature ou si on est dans le temps présent. En l'occurrence, le temps futur, où on la réanime dans cette espèce de cylindre qui m'a fait penser au cylindre dans lequel se régénéraient les envahisseurs dans cette fameuse série très ancienne avec Roy Thinnes. Voilà, il se régénérait là-dedans, ça m'a fait penser à ça. Voilà. Et donc ça, c'est très bien. Et un grand avantage, c'est que la créature n'est pas ridicule, qui était quand même la première question qu'on pouvait se poser. Est-ce que sorti de son congélateur et de son glaçon géant, ça allait être grotesque et tout le monde allait rigoler? Eh bien non. Alors qu'il est habillé d'une espèce de peau d'écorchée.
Il a quelque chose de béconien, je trouve.
Absolument. Vraiment, ouais. Il a une très belle gestuelle.
Se rapportant à Francis Bacon.
Oui, pardon. Voilà, exactement.
Parce qu'il y en a eu britannien que j'ai laissé passer tout à l'heure.
Voilà,
se rapportant
voilà.
À Benjamin Britten.
Et il a une gestuelle très touchante. Il a, avec la voix qu'il a maintenant un peu abîmée, Topi Lehtipuu, mais toujours cette musicalité, cette émotion et ce phrasé de très grands musiciens. Donc cette créature, on l'aime, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas, toute l'humanité dont parlait.
Est-ce qu'on souffre avec elle? Parce que c'est ça l'enjeu quand même.
J'irais peut-être pas jusque là, mais on comprend sa souffrance.
Bon, bah c'est bien.
Plus que celle des autres personnages, à l'exception de la femme de Victor Frankenstein, qui en plus a une interprète qui a de la présence, c'est Léonore Marguer, et un timbre avec une belle densité. Donc, on réussit à avoir ce jeu d'aller-retour et on y croit. Après, d'un mot, si on se situe en 2816, on aurait pu imaginer qu'une réflexion sur la science, la technique, ce qu'était devenu le monde, et une mise en abîme et en rapport entre ce 19e siècle qui voyait une anticipation et maintenant une période réellement future, qu'est-ce que toutes les réflexions sur la vie, la mort, redonner la vie, ça allait nourrir un livret qui, en fin de compte, n'est pas du tout nourri par ça. Mais bon, c'est un choix étonnant, mais c'est un choix.
Dernier mot, Anna Segalevitch.
Oui, mais je suis complètement d'accord avec Emmanuel.
Très bien.
C'est que la mise en regard, en fait, est plus finalement un décorum. Donc on nous indique qu'on est dans deux temporalités qui sont claires et la librettiste a voulu évoquer trois thèmes qu'on sent sur le plateau, je ne les dis pas, mais en effet, oui et qu'est-ce que toutes les avancées technologiques ont produit sur l'homme, sur la pensée, sur la réflexion? On est en 2816, comme on pourrait être aujourd'hui, comme on pourrait être au début du siècle dernier. Voilà, il y a, à mon sens, un manque de point de vue et de problématisation de tout ça.
Ce Frankenstein de Margret, présenté à la Monnaie de Bruxelles, donc livret de Julia Canossai Serra, direction Bassem Akeki, mise en scène Alex Olé, c'est jusqu'au 20 mars à la Monnaie, à Bruxelles, et puis on pourra le découvrir sur le Internet, sur le site de la Monnaie, à partir de vendredi. Je cherchais ce que j'allais dire. Sur la grande toile. Voilà, sur l'Internet. C'est bien, non?
Oui.
C'est bon. À partir de vendredi, 15 mars, et jusqu'au 15 septembre prochain. J'ai hâte de regarder ça. À suivre, on a la dispute, un disque des moquets Barat, un coup de cœur d'Anna Segalevitch et un petit salon de Lucille Comeau.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute, donc, avec un disque Voglio Cantare par Emoke Barat chez Warner. C'est une soprano hongroise qui a composé son nouveau disque avec notamment des pièces de Strozzi, de Cavalli, de quelques autres contemporains. Barbara Strozzi, la première femme à entrer dans la fameuse Accademia degli Unisoni de Venise. Elle a composé 8 recueils de madrigaux. Elle a publié plus exactement ses recueils entre 1644 et 1664. Mais à la demande d'Emmanuel Giuliani, c'est plutôt un air de Cesti qu'on va écouter, amputé de son tout début, précisons-le, mais l'extrait est assez long, de ce disque Voglio Cantare. Voilà pour cet extrait du disque Démoqué Barat, consacré notamment à Barbara Strozzi, mais pas seulement. Juste un mot peut-être sur ce choix de Chesty, avant de donner la parole à vos camarades et de développer vraiment Emmanuel Giuliani.
D'abord parce que je trouve que c'est une scène extrêmement jolie dans ses contrastes et qu'elle donne justement une bonne image en quelques minutes de toute la gamme des affects. Hein. On est vraiment dans cette pleine époque où la musique est au service du mot et de l'expression des passions et des sentiments, depuis le plus recueilli, le plus élégiaque, jusqu'à des choses joyeuses, voilà, faussement joyeuse, puisqu'il s'agit de tromperie, et puis la manière dont l'humaine condition doit se résoudre au bonheur et surtout au malheur. Donc ça traduit bien le climat d'ensemble, me semble-t-il.
Je reviens vers vous, bien sûr. Anna Sigalevitch, premier regard sur ce disque.
Sur ce disque, je trouve que c'est un très beau disque à plusieurs égards. D'abord, pour Emoke Barat, qu'on vient d'entendre, on entend quand même que c'est une voix, je trouve, très riche, à la fois souple, ample, avec vraiment une richesse dans les harmonique, avec un timbre aussi qui est vraiment pulpeux, qui est charnu. Elle a à la fois beaucoup de souffle et elle est très expressive sans tomber dans l'expressivisme, quoi. Enfin, dans la fêterie et dans tout ça, je trouve qu'elle arrive à éviter cet écueil, ce qui n'est pas du tout évident avec ce genre de musique. Donc elle fait ça extrêmement bien. Je l'avais entendu, je pense qu'on l'avait tous entendu dans Orphée Eurydice l'année dernière, où elle chantait de Gluck, mise en scène par Robert Carson au Théâtre des Champs-Élysées. Elle chantait un petit rôle, elle chantait Amour, et elle m'avait vraiment, je l'avais remarqué, je me disais, tiens, cette fille, elle a vraiment quelque chose. Donc j'étais attentive au moment de la sortie de ce disque. Elle était très très bien, et là, vraiment, pour moi, ça se confirme, c'est une vraie personnalité vocale et une voix très riche. Avec un timbre ductile, moelleux, il y a beaucoup de choses, et on a envie de l'entendre d'ailleurs dans beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première raison.
Et la deuxième viendra ensuite.
Tout à fait.
Après un premier tour de table, dans lequel entre maintenant Lucille Comeau.
Je peux peut-être donner une deuxième, justement, c'est le programme et la façon dont il est conçu. Donc Volio Cantar, c'est le premier vers du dernier de la cantate, de la chanson, on peut même parler presque de chanson, qui clôt l'album. Et donc Barbara Strozzi encadre ce programme. Barbara Strozzi, donc c'est cette fameuse compositrice, on en entend un petit peu parler depuis quelques années, il y a plusieurs disques qui commencent à sortir et on entend sa musique, qui donc était la femme qui a régné un temps sur la musique à Venise, donc c'est le 17e siècle vénitien. Et ce qui est assez beau avec ce disque, c'est qu'au-delà du portrait qu'il livre de Barbara Strozzi, c'est largement ce qui est d'ailleurs écrit dans le livret, ça donne une image de ce Venise, de cette Venise de l'époque où l'opéra était tellement partout que même avec un effectif chambriste, comme d'ailleurs c'est le cas dans le disque, on faisait opéra et on ne lésinait sur aucune expressivité, le drame était absolument partout, y compris juste avec une viole et une voix.
Et puis dans des mini-formats.
Donc ça c'est passionnant parce qu'on a vraiment, je trouve, avec le disque, cette impression à la fois d'exacerbation totale du drame, des sentiments, de l'expressivité dans la voix, et en même temps l'idée que tout ça se jouait dans des petits espaces et un peu tout le temps dans la journée, on en parlait. C'est assez bien raconté dans le livret. Il est dit que Barbara Strozzi tenait un temps, presque un salon, on n'est pas encore au XVIIIe siècle, mais c'est quand même un peu ça, où à la fois elle chantait et elle discutait de ce qu'était la passion amoureuse, de la pertinence de la chanter ou de la raconter sans le chant. Enfin, tout ça est assez intéressant. Après, moi, j'ai une réserve, mais c'est souvent la mienne sur ce type de disque. Je le trouve extrêmement long. Et quand on l'écoute du début à la fin, on perd un petit peu cette vivacité qui est en effet le propre de sa voix. Enfin, il n'y a aucun problème, sa voix est absolument magnifique et tout le temps magnifique. Et l'ensemble Hippomodoro est d'une expressivité aussi qui soutient la voix de Emoke Barat avec vraiment beaucoup de vivacité. Mais c'est trop long, c'est vraiment trop long et c'est dommage parce qu'on a envie de l'écouter de bout en bout, je trouve. Et c'est trop long.
Bon. Parce que vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'on s'est souvent plaint dernièrement de la pauvreté des livrets des disques dont nous avons parlé. Au moins là, nous avons les paroles en quatre langues et nous avons effectivement ce texte qui n'est pas si court d'ailleurs, consacré à l'histoire de Barbara Strozzi. Donc voilà, on achète un disque, on a envie qu'il y ait un livret qui en vaille la peine. C'est le cas ici, donc c'est bien de le signaler parce que quand on s'en plaint, on le dit. Quand c'est bien fait, il faut le dire aussi.
C'est pas un répertoire qu'on entend tous les matins et avec lequel on est forcément très familier. C'est vrai que la construction du programme méritait d'être comme ça, mise en relief avec des mots. Je souscris tout à fait donc sur les qualités de la voix de Emoke Barat. Je crois que c'est avec vous, Anna, on en parlait. Elle fait un peu penser avec une voix placée plus haut à la voix de Magdalena Kogena. C'est de ces voix extrêmement à la fois fleuries et fruitées à la fois. Peut-être qu'elle a, mais elle est encore jeune, elle a 30 et quelques années, peut-être qu'elle a, à certains moments, on le sent à la fin du premier des Barbara Strozzi, un peu des limites techniques quand même, quand les vocalises deviennent un peu trop tendues, quand on va chercher beaucoup d'aigus.
Dans les aigus,
voilà, elle, voilà, ça se durcit un peu, c'est pas une voix royale. Bon. Mais c'est quand même tout à fait bien. Mais
est-ce que ça t'entend pas d'autant plus que quand même sur la prise de son,
c'est
la voix
proche,
est quand même
très proche, parce qu'on entend le souffle, etc. Oui.
Il y a peut-être aussi ce problème-là.
Bien sûr, avec la distance, la respiration, c'est quelque chose qui a voulu clairement
d'accord.
être...
D'accord, oui, mais du coup, on entend tout, véritablement.
Voilà, et à des moments, des petites raideurs, en effet, qu'on aurait, vous avez raison, sans doute pas sur scène, qu'on n'avait pas, par exemple, quand elle avait chanté, c'est la première fois que je l'ai entendue à Aix-en-Provence, c'était Elena de Cavalli, ou avec Valère Sabadus qui faisait Ménélas, elle faisait vraiment un couple absolument divin. Elle était toute blonde dans la mise en scène, et leur duo était des moments de délectation suprême, et on retrouve plus mûr, mais vraiment ce charme vocal. Donc c'est vrai, c'est un très joli disque. Alors moi, j'ai pas eu la même impression que vous, Lucille, parce que... alors, peut-être que je me suis mise dans l'esprit et la manière d'agir et d'écouter d'un auditeur du XVIIe siècle à Venise, en me déconcentrant un peu par moment, notamment les petits intermèdes purement orchestraux servent aussi
c'est
à ça.
C'est une bonne idée, ça,
à faire,
bien,
et ils sont très, très, très bien joués, et à faire ces respirations. Mais je me dis qu'on peut se laisser flotter, puis à un moment... vivre avec le disque. À un moment, être dans une écoute plus intense. Alors, peut-être que ce que je dis est totalement
hétérodoxe,
mais je crois qu'on peut le faire de la sorte et vraiment jouir aussi de la qualité, de l'infinité des détails que nous offrent ces airs et cantates successives.
Le deuxième point, Dalia Segalevich.
C'était le point qu'a évoqué Lucille.
C'est complémentaire comme ça.
Voilà, c'était effectivement sur Barbara Strozzi. Moi, je n'ai pas non plus souffert de la longueur du disque que j'ai écouté avec plaisir. Et puis, je trouve que c'est aussi agréable. Il y a quand même des airs ou des cantates qui sont assez longues. Hein, donc, on peut les écouter seuls. Il n'y a pas de frustration à écouter, par exemple, le Lamento, la cantate Sul Rodano Severo qui dure 12 minutes 48.
Incroyable, c'est vraiment le cœur du disque.
Ouais. Ça, c'est vraiment un moment très très riche. En plus, l'histoire est amusante parce que il y a aussi de la provocation en fait de la part de Barbara Strozzi. C'est ce qu'on comprend parce que le sujet est un peu scandaleux. En fait, cette cantate raconte l'histoire d'un marquis français qui est condamné à mort pour trahison, mais on comprend qu'en fait, peut-être que cette trahison en fait n'était pas celle qu'on croit, mais il aurait peut-être eu une aventure avec Louis XIII. Donc, voilà. Donc ça, et je trouve que, quand on connaît l'histoire et qu'on écoute cette cantate, il y a de l'humour, de la tristesse, de la profondeur, une forme d'ironie aussi. Il y a plein de choses. C'est très très subtil et je trouve que l'écriture de Strozzi a tout ça. C'est une écriture qui est intime et flamboyante, qui a en effet, ils le disent, une audace étonnante, et donc c'est vraiment à découvrir avec beaucoup de plaisir.
Dernier mot de Lucille Comeau.
Oui, cette cantate, elle est superbe, et en effet, il y a des dissonances, il y a des moments où l'harmonie, je m'arrêtais de faire ce que j'étais en train de faire, parce que c'est vraiment extrêmement étonnant, parfois des tournants harmoniques au bout d'un vers qui sont magnifiques, et c'est très révélateur de la manière dont l'opéra rentre à l'intérieur de la chanson, parce que c'est un dialogue qui se met en place donc entre ce personnage, le roi, une ombre qui vient à passer, donc tout ça est un petit poème en fait, un petit drame en quelques minutes, je pense que c'est le plus intéressant du disque.
Voglio cantare, De Mocche Barat avec il Pomodoro, et c'est chez Warner, et la soprano chantera dans La Passion selon Saint-Mathieu de Bach le 14 avril au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et c'est le moment du coup de cœur d'Anna Segalevich pour l'intégrale des enregistrements d'Anne Kefelec sortis chez Erato. Avant d'en parler, on écoute un bout de l'étude pour les degrés chromatiques de Debussy dans ce coffret. Thank you. Extrait, ai-je dit, hein, parce que c'est le temps qui nous est imparti, le temps de ce coup de cœur. Alors, combien de disques, Anna ?
Alors, 21 disques. Entre
les
1900...
coups de cœur d'Anna Tsigalevitch. Minimum 20 CD, comptez 20 CD.
Entre, moi, j'en connaissais beaucoup parce que c'est des enregistrements entre 1970 et 1996. Donc voilà, il n'y a pas de nouveauté. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'elle dit que c'est aussi curieux pour elle. C'est comme une sorte de se retourner comme ça sur elle-même et d'écouter donc cette discographie. Donc premier disque, 1970, les 13 sonates de Scarlatti, qui est un disque moi, que je trouve absolument magnifique, qui croque très bien, je trouve, la personnalité musicale de Dan Kefelek. Elle avait 22 ans, elle était toute jeune, mais il y a une subtilité, une délicatesse, et en même temps une précision digitale extrême. Donc il y a ce premier disque-là, puis après il y a beaucoup de choses. Donc là on écoutait en effet une étude de Debussy, hein, elle a gravé les 12 études, et qui sont aussi, je trouve, vraiment très 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 réussies, les 12 études, parce qu'il y a une clarté, on entend, hein, le toucher perlé, la subtilité de la pédale. C'est vraiment l'école française dans ce qu'elle a de beau pour moi, c'est-à-dire on est proche du clavier, il y a une digitalité extrêmement précise, transparente, c'est très mesuré, avec beaucoup de souplesse. Et ce qui est beau, je trouve, avec Anne Kefelek, c'est que c'est quelqu'un, voilà, qui est très littéraire, qui aime la peinture, qui aime la philosophie, qui parle très bien de musique. Et je trouve qu'on sent dans ses interprétations ça, notamment beaucoup dans la musique française. Dans Debussy, je trouve qu'on sent ça, elle évoque plein de choses, elle crée des ambiances, mais elle n'assène pas. Enfin, le sens reste toujours ouvert. Il y a ça aussi chez Ravel, notamment Miroir. Là, il y a deux versions de Miroir dans le coffret, qui sont vraiment pleines d'idées, de spiritualité, avec un travail sur le son très très riche. Il y a le concerto en sol aussi, hein, qui est très brillant et incisif, avec une grande clarté, parce que c'est aussi une pianiste qui a une grande virtuosité, hein, c'est les deux. Donc pour la musique française, Satie, voilà, elle parle très très bien de Satie et elle joue très très bien Satie, hein, ça va presque l'un avec l'autre. Il y a de la musique de chambre aussi, il y a des concertos qui sont très beaux, les concertos de Bach avec pour deux et trois pianos, notamment avec Michel D'Alberto, les concertos d'Haydn. Bon, il y a beaucoup de choses, c'est un coffret qui est très riche et qui est à redécouvrir ou à découvrir.
Merveilleux. On a envie, évidemment, d'écouter cette intégrale des enregistrements d'Anne Kefelek sortie chez Erato. Nous sommes bel et bien entrés dans le petit salon de Lucille Gaumont, et ce soir un titre terrible, La Damnation de Berlioz.
Hélas, doux chant du ciel, pourquoi dans sa poussière réveille-t-il le maudit, hymne de la prière, pourquoi soudain venir y brandir vos desseins, vos suaves accords rafraîchissent mon sang, chant plus doux que l'aurore,
Lucille Gaumont.
Oui, ce Berlioz serait-il damné comme son Faust que l'on vient d'entendre ? Rien n'est moins sûr alors qu'on célèbre les 150 ans de sa mort, les disques pleuvent, notamment une intégrale de plus de 25 disques chez Warner, c'est pour Anna.
Je l'ai.
Ouais, bah, j'ai vu. L'Opéra de Paris a proposé ces derniers mois deux de ses opéras réputés injouables ou immontables, Benvenuto Cellini et Les Troyens. Il est même à nouveau question de faire entrer Berlioz au Panthéon, un serpent de mer qui circule depuis des dizaines d'années. Berlioz serait ainsi le premier musicien à y reposer. Pourtant, même si de nombreux articles ici ou là moquent cette « redécouverte » entre guillemets de Berlioz, force est de constater que non, Berlioz n'a pas toujours été aimé et qu'il reste encore des mélomanes aujourd'hui pour le bouder. C'est assez tentant d'ailleurs de dresser la jeunesse de Berlioz en artiste maudit dans la mesure où lui-même s'est ainsi peint tout au long de sa carrière musicale. C'était une réalité en partie. On lui a refusé le prix de Rome 3 fois. Il s'en est beaucoup plaint avant de finalement lui attribuer. Son œuvre n'a pas toujours été jouée comme il le voulait. Ses opéras ont été tronqués quand ils n'ont pas été des fours. Mais il a connu le succès très jeune. Il a été largement entendu et respecté. Un exemple, son Te Deum monumental a été donné en 1855 à Saint-Eustache dans des effectifs monstrueux, presque 1000 musiciens, qu'il avait prévu, bien sûr, et ce fut un événement. Alors, allons-y carrément. Moi, je n'aime pas trop Berlioz. Je n'ai jamais vraiment théorisé ce désamour, mais force est de constater que dès que je me mets à l'écouter, y compris sérieusement, comme ces dernières semaines, je ne comprends pas bien où je suis. Ça avait été le cas à l'Opéra Bastille devant Benvenuto Cellini, cet opéra qui narre les amours contrariés d'un sculpteur de génie en plein carnaval italien. La mise en scène extravagante de Terry Gilliam y était sans doute pour quelque chose, mais pas seulement, je ne comprenais pas ce qu'on me racontait, ni le livret, ni vraiment la musique. Pourtant, Berlioz était un génie du drame, il a beaucoup écrit sur la musique des autres, il a publié des mémoires qui apparemment ont tout du roman d'apprentissage balzacien, et toutes ses œuvres ont des sous-titres fournis extrêmement imagés. Même s'il a composé finalement peu d'opéras, il a conçu toutes ses pièces, symphonies, cantates, poèmes, comme des récits. J'entends bien cette propension dans La Fantastique, dans Roméo et Juliette, mais c'est comme si le fil déroulé me perdait constamment entre romantisme et néoclassicisme, entre grandeur et décadence, entre splendeur et misère. Alors Berlioz est mort le 8 mars 1869 à la fin d'un second empire qui l'éreinta et on ne le joua guère plus pendant quelques décennies, du moins en France, en Allemagne, en Russie, en Angleterre. Surtout, Berlioz est un grand compositeur, no questions asked. D'ailleurs, si le magazine Diapason ce mois-ci propose un dossier qui détricote cette légende maudite de Berlioz, force est de constater que les disques qu'il conseille comme référence sont très dominés par les orchestres et les chefs d'orchestre britanniques, Colin Davis qu'on entendait là en tête. Alors réhabiliter Berlioz, est-ce vraiment un cliché pratique pour la presse ou est-ce qu'il y a derrière ce marronnier une réalité qui tient à son écriture ou à sa personnalité ou à son œuvre? Bref, qui pourrait aimer Berlioz?
Emmanuel Giuliani peut-être?
Oui. oui, mais sans doute aussi pour les raisons que vous avez dites et qui vous posent question. C'est vrai que c'est un compositeur très bizarre et qui ne ressemble pas à grand monde, qui n'a vraiment pas au sens propre du terme de successeur. C'est rare d'entendre une autre musique et de se dire ça ressemble à du Berlioz. Voilà.
Et personne ne se revendique vraiment de lui.
Personne ne se revendique de lui, même s'il a été terriblement admiré, notamment pour toute, voilà, et pour toute sa science orchestrale, mais pas que, parce que c'est aussi un très grand. Il écrit très très bien pour les voix. Simplement, il écrit des choses horriblement difficiles. Donc, la plupart du temps, on l'entend très mal interprété. C'est un des gros problèmes. C'est vrai que ses symphonies sont à la fois des concertos, si on pense à Harold en Italie, qui est une symphonie avec alto ou un concerto pour alto symphonique. Ses opéras n'en sont pas. Alors, c'est vrai que Benvenuto et les Troyens, si, mais La Damnation de Faust, ce n'est pas un opéra et à la fois il y a du drame. Mais il y a cette adaptation de Goethe. Roméo et Juliette nous racontent l'histoire d'amour bien connue de son dieu Shakespeare. Mais ni Roméo ni Juliette ne sont présents de manière vocale. Ils sont évoqués par des instruments et par l'orchestre. Et les personnages qu'on entend sont des personnages secondaires. Donc à chaque fois, on a un pas de côté. On a des harmonies très étranges. On a des alliages de timbres absolument surprenants, fascinant ou déconcertant de mettre les flûtes et les trombones ensemble, comme il le fait notamment dans la Grande Messe des Morts. Si c'est bien fait, ça crée un effet sépulcral, pour ne pas dire spectral, rarement entendu. Si c'est mal fait, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc un peu bizarre. Donc il est sans doute, comme d'autres, mais très très délicat. Il est déconcertant par son goût du gigantisme et la parfaite intimité des Nuits d'été, par exemple, qui sont parmi sans doute un des plus beaux cycles de mélodies jamais écrits, et pour la voix et dans l'orchestration, notamment quand il évoque le cimetière ou les fantômes du passé qui passent sur la mer. Donc c'est en effet quelqu'un peut-être pas réhabilité, mais à écouter, à ne pas aimer, à réécouter, à adorer, à moins adorer. Voilà, il faut sans doute passer une vie avec Berlioz et être tiré un peu à hue et à dia avec lui.
Romain Segalevitch,
oui, et entretenir un rapport vivant avec lui, en fait, je pense, et presque un rapport conflictuel, en fait. Je pense qu'on a le droit d'entretenir un rapport conflictuel. Et c'est d'ailleurs comme ça que Bruno Messina a écrit sa biographie, que je trouve extrêmement réussie, que je trouve totalement berliozienne, en fait. Chez Actes Sud, qui est sorti il y a quelques mois. Bruno Messina, qui est le grand spécialiste de Berlioz, hein, il dirige le Festival de la Côte-Saint-André depuis un moment. Puis là, cette année, pour le 150e, il est en charge des commémorations, donc et ce qui me plaît beaucoup dans sa biographie, et je pense que c'est un moyen vraiment d'entrer dans Berlioz pour les gens qui peuvent avoir qui peuvent être un peu perdus ou avoir du mal, c'est que il a un rapport libre à Berlioz, donc c'est pas du tout hagiographique, c'est pas il est très sérieux musicalement, historiquement, mais il a presque une approche ethnographique, enfin, c'est-à-dire que voilà, et ça c'est vraiment intéressant. Messina s'est lui-même installé à la Côte-Saint-André quand il a commencé à diriger le festival, et donc il a une connaissance de la région, il prend vraiment en compte le fait que Berlioz a grandi dans cette région, une région où il y a des fantômes, où il y a des sorcières, où il y a la nature qui est importante, où il y a tout ça. Après toute l'ambivalence de Berlioz, et je trouve très très bien restituée, et puis il se permet des digressions, des sauts dans le temps, des trucs qui vraiment, à mon sens, restituent l'esprit de Berlioz, et il fait notamment une analyse de la symphonie fantastique qui est absolument géniale, où il explique que sûrement dans la première partie, les rêveries, ce serait le moment où à 12 ans et demi, il a rencontré son premier amour, Estelle, qui en fait est une femme qui a plané comme ça au-dessus de Berlioz toute sa vie, parce que il a eu après d'autres femmes, bien sûr, mais une fois qu'elles sont toutes mortes, est-ce qu'elles sont toutes mortes?
Oui,
voilà,
sont toutes les deux mortes.
À la fin de sa vie, il a eu envie de retourner avec Estelle, qui n'a pas du tout voulu, hein, d'ailleurs, mais voilà, ça, je trouve que ça raconte bien aussi Berlioz, tout ça. Ensuite, après le bal, c'est peut-être ces bals à la Côte-Saint-André, le côté ésotérique qui pouvait y avoir dans la région, enfin, il y a tout ça. Donc, je pense que c'est un moyen d'appréhender et d'empoigner Berlioz.
Un petit livre, hein, c'est pas du tout impressionnant.
Tout petit.
Et très très bien écrit, en plus.
Oui, on lit avec un charme fou.
C'est un délice, ouais.
Lucille Comeau.
Oui, sur la mise en situation de la musique de Berlioz, ça me fascine assez, cette histoire notamment de l'exposition universelle et du grand concert à Saint-Eustache, parce que vous le disiez, Emmanuel Giuliani, il est rarement bien joué, mais est-ce que vous l'avez déjà entendu, notamment ces grands effectifs-là, ou le Tédéum ou les grandes symphonies, dans des bonnes conditions, et où vous avez l'impression que l'interprétation vraiment tenait la route?
J'ai un très bon souvenir du Tédéum par John Nelson à la salle Pleyel, où il avait fait mettre devant la scène les 12 harpes que demande Berlioz, qui adorait la harpe. Là aussi, dans le bal de la fantastique que Anna évoque, c'est vrai que ces sonorités de harpe, c'est un truc complètement... Après, au XXe siècle, on en aura plein. Mais là, ça, voilà, c'est étonnant.
Et la spatialisation, voilà, enfin, tout ça, c'est quand même...
Et justement, il y a tellement de choses à faire de ce point de vue.
Bien sûr, avec des et puis, je pense que vraiment, c'est un compositeur avec John Eliot Gardiner et François-Xavier Roth aussi aujourd'hui, et son orchestre Les Siècles, et Gardiner avec l'orchestre révolutionnaire et romantique, qui gagne vraiment à être entendu et bien entendu sur l'instrumentarium de l'époque, justement, et avec ces instruments qu'il convoque, Ophicléide et compagnie, qui ont ces sonorités à la fois merveilleusement rêveuses et assez diaboliques, inquiétantes et très naturelles, ce que vous dites très bien, et que, en reprenant ce que dit Bruno Messina, on entend le son des ruisseaux, les cloches qui sonnaient à toute volée le dimanche à la campagne. Enfin voilà, donc il y a vraiment ces atmosphères sonores qui je pense, sont plus abordables quand on l'entend, encore une fois, bien jouer et jouer juste, sur instrument d'époque. Et c'est vrai que Berlioz sur instrument moderne est peut-être maintenant plus un défi que ça ne l'a été quand on était très habitué, notamment à tout le magnifique travail de Colin Davis, qui a été... si important pour la redécouverte berliozienne.
Mais est-ce que c'est pas justement, Lucille Comeau, je vous retourne la question, cette peut-être complexité, en tout cas richesse très grande de la musique de Berlioz, qui en fait quand même quelqu'un de relativement mis sur le côté, parce qu'il n'y a pas de grande œuvre populaire, il n'y a pas le grand...
La fantastique.
Franchement,
tous les chefs jouent la fantastique.
Non, je parle de populaire, c'est-à-dire vous descendez dans la rue, vous demandez aux gens de chanter la mère de classique, je ne suis pas sûr que ça arrive dans les 10 premiers. Non, c'est pour ça que est-ce que c'est pas tout simplement ça, il manque l'œuvre qui serait le totem de Berlioz et qui ferait c'est le billet de 10 francs pour les plus vieux, Berlioz, c'est ça.
Mais pourquoi, alors pourquoi ça fonctionne aussi bien dans d'autres pays? Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose de très français dans justement cette incapacité à le catégoriser dans son style ou dans une époque assez précise, et quelque chose qui ne pose absolument pas question en Allemagne ou en Russie. Je vous retourne la question.
Anna Segalevitch,
hypothèse valable.
En Russie, je ne sais pas, parce que moi, j'ai, pour être tout à fait honnête, j'ai grandi avec un père pianiste russe qui n'était pas du tout sensible à l'esthétique de Berlioz. On a jamais, enfin, on écoutait tout, mais pas Berlioz.
Les
chez
pianistes
moi, donc,
l'aiment pas beaucoup, comme il est donc, non, pas du tout écrit pour le piano.
Ouais,
Ah oui, mais ça c'est le trauma familial, il n'a pas pu avoir de piano, il a appris sur le flageolet.
Et la flageolet puis la guitare après, en effet.
À jouer.
Non mais après, Berlioz, moi je vous rejoins Lucille par exemple sur Benvenuto Cellini, je ne comprends pas, j'étais complètement dubitative par la mise en scène aussi, mais aussi par l'œuvre, tout simplement. Pareil pour Béatrice et Bénédicte.
C'est une merveille absolue.
J'ai énormément de mal à comprendre.
Il y a un des plus beaux trios jamais écrits. Ah oui, ah si.
Non.
Si.
Ouais, les Troyens, j'aime bien.
Ah oui, oui, il y a des choses magnifiques.
Il y a des choses magnifiques.
Va, dans...
Oui, mais pas
il y a des
moments.
Il y a des moments.
Oui, Nuit d'ivresse, c'est sublime. Ouais.
Enfin, là, c'était
début,
tellement moche à la Bastille que vraiment...
Les avis sont partagés, on va dire ça comme ça. Vous n'avez pas la réponse, hein, mais les petits salons, ça n'a pas vocation à apporter de réponse.
Ce serait triste en même temps. Si en 7 minutes, on pouvait faire un sort à tout Berlioz.
Oui, ce serait triste. Ça apporte d'autres questions et d'autres conseils. Donc, conseils de lecture, évidemment, le Berlioz de Bruno Messina chez Actes Sud. Conseil de 10, alors vous avez donc le fameux coffret, Anna Segalevitch, mais Jolini aussi.
Oui, oui, très
bien.
Oui,
c'est quoi? C'est l'essentiel? C'est quoi?
Ah non, non, c'est les œuvres complètes.
C'est l'intégrale.
Des œuvres complètes avec des œuvres totalement inconnues, La Nonne Sanglante, par exemple.
Encore chez un petit label, Warner Music.
Et bientôt paraître donc tous les enregistrements de Gardiner. Et ça, je crois que ça vaut vraiment le coup aussi.
Ça vaut la peine. Bon, mais voilà, quelques conseils pour peut-être apprendre à aimer.
Et puis, je suis d'accord avec Emmanuel pour Roth. C'est vraiment que c'est très, très bien Roth, aujourd'hui, François-Xavier Roth pour Berlioz. Ouais.
Bon, voilà, plein de conseils pour vous et pour vous approcher ou réapprocher de Berlioz. Et c'est la fin de cette émission, ou presque. C'est l'heure du jeu de la dispute. Et Joséphine Dumoulin nous a rejoint, qui va nous rappeler... Dans un premier temps, la question d'hier et nous donner sa réponse.
La question était: quelle collection littéraire a transformé le monde de l'édition en 1953? Et la réponse était la collection Livres de Poche.
C'est sûr que c'était la Révolution. Gagnez ce soir des invitations pour l'exposition Océanie, c'est à découvrir jusqu'au 7 juillet au musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Quelle est la question, Joséphine?
Dans lequel de ses films, Werner Herzog défend-il la culture aborigène?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Bon, c'est pas vraiment le générique fin, ça, mais vous allez le caler. Pour que je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur notre site internet franceculture.fr. Tiens, il arrive le générique fin à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter ou podcaster nos émissions. C'est très berlioisien.
Plein de surprises.
Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie d'Anaël Pija, Yasmine Yossi et Frédéric Bonnet. À notre affiche, l'exposition de Florence Lazare au Jeu de Paume, celle de Ren Hang à la Maison Européenne de la Photographie et celle de Guy Tillim à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Il y aura un coup de cœur de Frédéric Bonnet pour Jean Fournier, un livre qui lui est consacré par Catherine Framblin aux éditions Hermann.